Vous écoutez On lit pour vous.
Un vent de durcissement face aux chauffards. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 27 novembre 2024 dans Le Devoir. Le crime stupéfie. Le 25 juillet 2023, en fin d'après-midi, à Saint-Raymond, dans Portneuf, Martine Linteau, déjà ivre, prend sa voiture pour aller s'acheter une autre bouteille de vin. Le temps est radieux, la retraitée de 62 ans roule à 30 km/h au-dessus de la limite des 70 imposée sur la route de la Côte Joyeuse. Elle rate une courbe, se retrouve dans la voie inverse et percute une moto, tuant sur le coup deux trentenaires, Audrey Michaud et Samuel Lacourcière. Madame Linteau est arrêtée et reconnaît sa culpabilité. La procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales réclame 12 années de pénitencier et une interdiction de conduire durant 8 ans. La défense plaide pour 4 à 5 ans d'emprisonnement. La Cour du Québec vient de rendre jugement en imposant 8 ans de peine. Conduire son véhicule après avoir consommé de grandes quantités d'alcool est inadmissible, quelles que soient les circonstances, a affirmé la juge Marie-Claude Gilbert de la Cour supérieure du district de Québec dans son argumentaire lu le 5 novembre. L'objectif de dissuasion sert à décourager le délinquant à récidiver, mais aussi tous les membres du public qui seraient tentés de se livrer au même comportement répréhensible. Sitôt la sentence prononcée, Maître Valérie Bélisère-Joseph, procureur aux poursuites criminelles et pénales, a parlé d'un vent de changement. Pourquoi? Parce que la jurisprudence et les peines qu'on observe vont vers ce type de peine plus sévère, dit-elle en entrevue au Devoir. Il y a un durcissement, notamment pour les peines visant la conduite avec les facultés affaiblies, parce qu'on veut enrayer ce fléau. La loi a changé récemment et on en mesure de plus en plus les effets. On a les outils pour augmenter les peines. Les infractions sont tellement graves que c'est justifié d'avoir des sanctions plus élevées. Aussi grave qu'un meurtre. Maître Bélisère-Joseph se spécialise dans les dossiers de conduite avec les facultés affaiblies, y compris des cas d'accident ayant causé la mort. Elle commencera à la mi-décembre 2024 à plaider un autre cas mortel impliquant un conducteur ivre. « Ces causes m'intéressent », dit-elle. « Le droit en vigueur est très changeant, très évolutif et j'en ai fait beaucoup. » Particulièrement lors des bombances de décembre, les fêtes de bureau et les parties de fin de session. Il faut bien rappeler que la conduite avec les facultés affaiblies constitue la principale cause criminelle de décès et de blessures au Canada. En 2022, le quart, 23 % des collisions mortelles au pays, avait comme facteur contributif la conduite avec des facultés affaiblies ou sous influence. C'est davantage que la vitesse et les facteurs environnementaux, 22 % dans les deux cas. Les conducteurs fautifs sont le plus souvent de jeunes hommes. Martine Linteau est une exception. En 2020, avec le projet de loi C-46, notre gouvernement a introduit d'importantes réformes pour renforcer davantage les lois canadiennes contre la conduite avec faculté affaiblie, écrit au Devoir Chantal Aubertin, attachée de presse du ministère de la Justice. Nous avons mis en place un solide régime pour lutter contre la conduite avec faculté affaiblie par la drogue, fourni aux policiers de meilleurs outils pour identifier les conducteurs affaiblis et augmenter les peines maximales. En cas d'accident causant des lésions corporelles, l'emprisonnement maximal de 10 ans est maintenant prévu pour la personne intoxiquée au volant. Les articles de loi ajoutent des cas de délit de fuite, de refus d'obtempérer, de conduite dangereuse et de circonstances aggravantes, par exemple pour avoir conduit sans permis. Au niveau objectif, le chef d'accusation pour avoir causé la mort au volant en conduisant avec des facultés affaiblies permet l'emprisonnement à perpétuité, explique la procureure Valérie Bélisère-Joseph. Le niveau de gravité est le même qu'un meurtre, comme pour un homicide involontaire. Évidemment, c'est très rare qu'on aille jusque-là. Le vent se lève lentement. Dans les faits, le vent semble tourner lentement et peut-être pas avec la même force dans toutes les juridictions. Certains jugements surprennent encore par leur clémence. En voici un, tout récent lui aussi. Alexandre Roy Bélanger, 31 ans, a plaidé coupable à l'accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort de Maxime Quinn le 16 juin 2021. Avant de prendre la route ce jour-là, en fin d'après-midi, il avait consommé plusieurs gin tonic et des shooters dans un bar. Au moment de l'accident qui a coûté la vie à son passager, il roulait à plus de 170 km/h avec une pointe à 188 km/h dans une zone de 50. M. Roy Bélanger avait déjà 10 condamnations pour des infractions au code de la route, dont 9 pour excès de vitesse commis entre 2013 et 2020. Il a été condamné le 27 septembre 2024 à 3 ans et demi, 42 mois de prison, et à une interdiction de permis de conduire pendant 5 ans. Était-ce suffisant? Est-ce dans le sens du vent de correction? En tout cas, c'était déjà une peine beaucoup plus sévère que celle visant Jordan Xavier Taylor il y a une décennie. Le 12 juin 2015, le jeune homme de 26 ans quittait un club de golf de Hudson où il avait bu. Conduisant à haute vitesse, le chauffeur a frappé deux personnes qui faisaient du jogging. Il a quitté les lieux après l'impact sans s'arrêter. Une des deux victimes, Tina Adams, a été grièvement blessée. Lésions cérébrales, vertèbres fracturées, poumons crevés, hanche droite détruite, etc. L'étudiante en technique policière a dû abandonner sa formation. Elle a subi 19 opérations. M. Taylor a plaidé coupable à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé un accident occasionnant des lésions corporelles. La poursuite et la défense ont conjointement suggéré une peine de 8 mois d'emprisonnement. Le dossier de jurisprudence déposé en appui de cette recommandation listait 24 décisions, dont plusieurs de peines allant de seulement 90 jours à 8 mois malgré la présence de blessures importantes subies par la victime, d'un taux d'alcool élevé de l'accusé et d'une conduite dépassant les limites de vitesse permises. Le juge Bertrand Saint-Arnaud trouvait que la peine de M. Taylor devait être plus importante que les 8 mois recommandés par les deux parties. Il s'est résigné à l'appliquer en se référant à une ordonnance de la Cour suprême en cas d'entente présententielle. La peine de 8 mois a donc été maintenue. Dans le régime « no fault » du Québec, les victimes ne peuvent poursuivre au civil le criminel pour des dommages punitifs. Maître Marc Bellemare, avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route depuis 4 décennies, décrivait encore en 2023 le Québec comme le « paradis des chauffeurs ». Il citait notamment pour preuve le refus de Québec d'abaisser le seuil de tolérance au volant de 0,08 à 0,05 mg d'alcool dans le sang du conducteur, selon la norme nord-américaine. Le refus a encore été servi en octobre 2024 par la ministre des Transports Geneviève Guilbeault. Maître Bélisère Joseph s'était opposé à la remise en liberté de Mme Linteau après son arrestation et celle-ci a donc comparu comme détenue, autre preuve du durcissement des tribunaux vis-à-vis des chauffeurs meurtriers, selon la procureure. Mme Linteau a 35 jours pour faire appel du jugement. C'était un vent de durcissement face aux chauffeurs. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 27 novembre 2024 dans Le Devoir.
Visite au Centre international de recherche sur le cancer, à l'œuvre pour vaincre la maladie du siècle. Un texte de Maxime Bilodeau paru le 30 octobre 2024 dans Québec Science. Québec Science a visité le Centre international de recherche sur le cancer en France, une agence onusienne unique en son genre qui s'évertue à répondre aux grandes questions sur le cancer. Qui est touché? Pourquoi et surtout, comment prévenir ce fléau? L'amiante, on le sait, est cancérigène. Le glyphosate l'est probablement, comme le talc d'ailleurs. Ces mises en garde médiatisées ont été formulées par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, dans le cadre d'un programme qui recense et évalue les causes évitables du cancer chez les êtres humains. Mais le CIRC, ce n'est pas que ça. Cette agence intergouvernementale, créée en 1965 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, joue le rôle de locomotive de la recherche sur la prévention du cancer. Ses chercheurs et chercheuses collaborent avec des équipes du monde entier dans l'objectif de réduire le fardeau et les souffrances liées à la maladie. Cette noble mission a souvent comme point de départ de grandes cuves cryogéniques qui dorment dans le sous-sol du nouveau siège du CIRC, situé au cœur du biodistrict du 7e arrondissement de Lyon, en France, à proximité du Rhône. Cette quarantaine de cylindres renferme plusieurs centaines de milliers d'échantillons de globules rouges, de plasma, de sérum et d'autres fluides corporels conservés dans de l'azote liquide à une température de moins 196 degrés Celsius. Avec plus de 6 millions d'échantillons provenant de plus de 70 pays, il s'agit d'une des plus importantes collections de matériel biologique au monde, nous explique Christophe Lallemand, technicien senior de Biobanque au sein du CIRC. Nous possédons même des échantillons qui proviennent du fin fond du Bhoutan, ce qui est assez rare. Plus tard, lors de notre visite, notre cicérone nous montrera une autre infrastructure clé de cette véritable bibliothèque. Une salle remplie de boîtes en carton où sont entreposées des coupes de tissus humains préservés dans de la paraffine, mais aussi des ongles et des cheveux. De quoi voir d'un autre œil cet amas informe qui bouche parfois le drain de la douche. La biobanque du CIRC présente un grand intérêt scientifique. La communauté de recherche en cancérologie peut en effet demander l'accès aux collections, par exemple pour étudier les interactions entre les gènes et l'environnement. Une équipe des Pays-Bas nous a sollicité récemment après avoir sélectionné certains de nos échantillons pour des travaux sur le lymphome, raconte Christophe Lallemand. Une fois les approbations obtenues, les échantillons sont préparés, placés sur de la glace carbonique et acheminés au destinataire sans étiquette de retour. Il en reste rarement à la fin des projets. La majorité des échantillons de la biobanque du CIRC proviennent de l'enquête prospective européenne sur le cancer et la nutrition, EPIC, une étude lancée au début des années 1990 et qui se poursuit de nos jours. L'idée? Suivre plus de 500 000 personnes recrutées dans 10 pays d'Europe occidentale avant que certaines d'entre elles ne développent inexorablement un cancer. Au fil du temps, ces diagnostics ont ouvert une fenêtre unique sur les causes probables du crabe, en lien avec l'alimentation, le mode de vie, etc. Imaginez, les données issues de cette étude ont donné lieu à la publication de plus de 3000 articles scientifiques depuis 3 décennies. L'un des constats? Jusqu'à la moitié des cancers détectés pourrait en principe être évité grâce à des changements de comportements individuels, rappelle Pietro Ferrari, chef du service nutrition et métabolisme du CIRC. Le tabagisme, la sédentarité, la consommation d'alcool, le surpoids et la mauvaise alimentation sont tout particulièrement problématiques. Cette observation témoigne du chemin parcouru en matière de prévention du cancer depuis 60 ans. Au moment de la création du CIRC, prévenir les cancers constituait déjà la pierre angulaire de la lutte contre ce fléau, les traitements anticancéreux ayant alors et encore aujourd'hui une portée limitée. Or, force est de constater que les connaissances se sont grandement affinées. Nous en sommes désormais à isoler des profils nutritionnels pour ensuite les associer avec des signatures moléculaires propres à certains cancers, affirme le chercheur. Le but? Mettre au jour des mécanismes à l'œuvre dans l'apparition de certains types de cancers. 35 millions de nouveaux cas de cancer devraient être déclarés en 2050, soit une augmentation de 77% par rapport à 2022. Vous écoutez Visite au Centre international de recherche sur le cancer à l'œuvre pour vaincre la maladie du siècle, un texte de Maxime Bilodeau paru le 30 octobre 2024 dans Québec Science. Perspective internationale. Ces travaux sur la nutrition et le métabolisme pourraient en outre être utiles pour élucider l'un des grands mystères de l'heure. Pourquoi le cancer atteint-il de plus en plus de jeunes? La tendance est inquiétante. Entre 1990 et 2019, les cas de 29 types de cancers chez les 14 à 49 ans ont bondi de près de 80%, rapporte une étude publiée l'année dernière dans BMG Oncology. Le CIRC sonnait déjà l'alarme en 2019 dans les pages de The Lancet Gastroenterology and Hepatology, en signalant une hausse de l'incidence du cancer colorectal chez les moins de 50 ans dans la dernière décennie. Si le cancer était autrefois une maladie de personnes âgées, ce n'est plus le cas. Les cas précoces de cancer s'observent surtout auprès de la génération née entre 1965 et 1980 dans des pays riches, analyse Pietro Ferrari, qui collabore à plusieurs projets sur ce sujet chaud. Car, à ce stade-ci, les causes exactes du phénomène sont mal comprises. Plusieurs hypothèses sont avancées, allant de la plus grande exposition aux aliments transformés à des taux records d'inactivité physique, en passant par la piste d'une infection survenue tôt dans la vie, énumère le biostatisticien. En vérité, nous ignorons de quoi il retourne. Leslie Mary est responsable du Programme mondial de surveillance du cancer du CIRC. Il collecte, réunit et analyse des données probantes dans le monde entier. C'est donc dire que lui et sa petite équipe étaient aux premières loges pour voir la vague des cancers précoces se dessiner. Les statistiques sur le cancer sont un peu comme le canari dans la mine. Elles permettent de prendre la pleine mesure d'une tendance et d'ainsi mieux y répondre en fait de recherche et d'intervention, souligne cet expatrié canadien nostalgique des Nordiques de Québec. Sans un portrait clair du fardeau, il est impossible de faire de la prévention. Tous les 5 ans, le CIRC publie Cancer Incidence in 5 Continents, une compilation de statistiques de haute qualité sur l'incidence de la maladie aux 4 coins de la planète. Parue en 2023, la 12e et plus récente édition contient des informations provenant de plus de 450 registres du cancer de 70 pays pour les cancers diagnostiqués entre 2013 et 2017. Cette Bible volumineuse, plus de 1000 pages, réalisée en partenariat avec l'Association internationale des registres du cancer, constitue une mine d'informations pour les pays à revenus faibles et intermédiaires qui ne disposent pas toujours de données de qualité. Ces derniers feront face à une augmentation de 60% des cas de cancer d'ici 2040, selon des projections du CIRC. C'est notamment le cas du cancer du col de l'utérus, dont l'incidence et la mortalité qui lui est imputable sont dramatiques dans les pays dits du Sud. Depuis les années 1980, le CIRC multiplie donc les projets de recherche sur ces tumeurs malignes causées par certains virus du papillome humain, VPH. En 2021, une de ces études a par exemple démontré l'efficacité d'une dose unique de vaccin contre le VPH plutôt que deux ou trois chez les femmes en bonne santé, ce qui change la donne en matière de prévention. L'OMS a d'ailleurs modifié ses recommandations l'année suivante pour tenir compte de cette découverte. Le CIRC cherche aussi à améliorer les capacités de dépistage et de prise en charge dans les populations à risque de ces pays aux ressources limitées. Les tests de dépistage du col de l'utérus basés sur l'infection à papillomavirus humain, présence d'ADN du virus, surpassent ceux fondés sur la cytologie, qui porte sur la morphologie des cellules, mais sont assez coûteux et complexes à mettre en œuvre. Fait valoir Farida Selmouni, scientifique spécialisée en santé publique et en épidémiologie au sein de l'équipe Détection précoce, prévention et infection. Les défis inhérents au passage de l'un à l'autre sont documentés dans un répertoire mondial sur les programmes de dépistage du cancer. CanScreen 5, un autre projet phare du CIRC. Les cancers du poumon, du sein et le cancer colorectal sont les plus fréquents à l'échelle planétaire. Vous écoutez Visite au Centre international de recherche sur le cancer à l'œuvre pour vaincre la maladie du siècle, un texte de Maxime Bilodeau, paru le 30 octobre 2024 dans Québec Science. Cancérigène ou pas? À titre d'organisation internationale consacrée à la recherche, le CIRC adopte une posture d'impartialité qui la préserve de la lumière des projecteurs. La seule exception notable concerne son programme de monographie, ses recensions critiques et méthodiques des données relatives à des agents possiblement cancérigènes. Depuis les premières monographies du début des années 1970, plus de 1000 substances ou expositions ont été passées en revue. Du lot, environ la moitié ont été reconnues cancérigènes, groupe 1, probablement cancérigènes, groupe 2A, ou peut-être cancérigènes, groupe 2B, pour les humains. Le reste est considéré comme inclassable, groupe 3. Trois fois par année, des expertes et experts internationaux indépendants, triés sur le volet, convergent au siège du CIRC pour une réunion de plusieurs jours. Leur but? Classer les agents à leur altitude dans l'une des quatre catégories existantes. Pour atteindre ce consensus, trois types de données scientifiques sont prises en compte, soit celles relatives à la cancérigénicité pour l'être humain, celle pour l'animal, ainsi que celle sur les mécanismes de cancérigénicité. Toutes ces données sont préalablement soumises à un examen critique en sous-groupe, apprend-on dans le préambule aux monographies du CIRC, un document qui balise l'ensemble de ce long processus qui dure une année. Un de ces huis clos venait justement d'avoir lieu lors du passage de Québec Science au quartier général du CIRC, en juin 2024. Pendant une semaine, le groupe de travail a évalué le potentiel cancérigène du talc et de l'acrylonitrile, une substance utilisée notamment dans la fabrication de certaines matières plastiques. Fait intéressant. Autour de la table étaient aussi représentées les industries concernées. Ces participants n'ont qu'un rôle d'observateur passif, précise Mary Schubauer-Berrigan, chef du service synthèse et classification des preuves du CIRC. Ils ne participent pas à l'évaluation ni à la rédaction du manuscrit. Le mandat du CIRC s'achève une fois les monographies publiées. La balle est alors dans le camp des agences sanitaires nationales et internationales, pour lesquels il s'agit de précieux outils d'aide à la décision. Selon la nature des agents, il arrive néanmoins que les médias s'emparent de l'histoire. Ce fut par exemple le cas de l'aspartame, ce populaire édulcorant artificiel classé cancérigène possible, groupe 2B, par le CIRC à l'été 2023, sur la base d'une indication limitée de cancérigénicité pour l'humain, notamment pour le foie. La conclusion faisait suite à l'analyse de 1300 études scientifiques récentes, ce qui n'a pas empêché l'afflux de réactions d'indignation. Un expert bien en vue a même qualifié cette annonce de farce fondée sur de l'alarmisme institutionnalisé dans un quotidien montréalais. Une part de l'incompréhension est liée à la confusion entre le danger et le risque, pense Mary Schubauer-Berrigan. Les classifications du CIRC ne se prononcent pas sur le risque de développer un cancer à un niveau d'exposition donné, ce qui est plutôt le rôle des agences sanitaires, nuance-t-elle. L'OMS n'a d'ailleurs pas modifié sa limite recommandée de consommation d'aspartame à la suite de la décision du CIRC. Cette dernière est toujours de 40 mg d'aspartame par kilo de masse corporelle par jour, ce qui équivaut à plus ou moins une dizaine de canettes de boissons gazeuses sans sucre par jour pour un adulte. Contrairement au risque, qui est une notion relative, le danger est immuable. Il reste toujours identique à lui-même. Par exemple, le tyrannosaure mériterait fort certainement le titre de danger public, du moins si l'on se fie à Jurassic Park. Mais le risque de se faire croquer tout rond par lui est néanmoins de zéro, car, comme tous les dinosaures, il est éteint depuis longtemps. Dans le cas de l'aspartame, cela signifie que la substance a peut-être le potentiel de créer un dommage pour la santé en favorisant le cancer, mais que la probabilité que ce scénario se manifeste est plutôt limitée. Après tout, rares sont les individus qui en consomment des quantités considérées comme risquées, de l'ordre de 10 coke diète par jour. Les alertes du CIRC, comme celles sur l'aspartame, ont un objectif clair. Augmenter la vigilance pour inciter la mise en place d'actions de prévention et ainsi réduire peu à peu le nombre déjà trop élevé de victimes de cancer. Selon des données du CIRC, quelques 10 millions de morts par cancer ont été enregistrées en 2020 dans le monde, soit un décès toutes les 3 secondes en moyenne. Le crabe a donc coûté la vie à environ 180 personnes depuis le début de la lecture de cet article. C'était Visite au Centre international de recherche sur le cancer, à l'œuvre pour vaincre la maladie du siècle, un texte de Maxime Bilodeau, paru le 30 octobre 2024 dans Québec Science.